crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Libre Radio, la radio qui ne se fait aucune illusion. www.libradio.org. Voilà, donc nous sommes le samedi 19 août à l'Almacène, en plein cœur des Grottes, précisément au 6 rue des Grottes, puisque cette, je le mentionne, puisque nos émissions sont toujours en public, et que donc les personnes sont invitées à y participer, et en tout cas à venir nous écouter sur place. Et alors, pour cette dernière partie de l'émission, nous sommes ensemble encore jusqu'à 17h, eh bien, nous recevons Mugisho, bienvenue à toi.
Merci.
On est ravis de te rencontrer, tu fais partie des résidentes et résidents du foyer Franck Thomas, dont je vais rapidement dire quelques mots et tu me démentiras si je me trompe ou tu confirmeras. Et puis ensuite, bien entendu, que tu nous diras l'actualité de ce qui s'y passe et les aspirations auxquelles vous allez, enfin, vers lesquelles vous allez en tout cas. Alors on peut dire que le foyer Franck Thomas contient, en tout cas à l'époque, contenait 135 places d'hébergement destinées à des personnes réfugiées et qui avaient vocation à être détruites. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient, elles empiétaient, si j'ai bien compris, sur l'entrée du chantier du Seva. Alors, bien entendu que c'était une raison un tout petit peu particulière, un petit peu bizarre, un petit peu abusive, pourrait-on dire. Comment est-ce qu'on enlèverait cette possibilité de vivre dans des conditions compliquées, mais qui ne sont quand même pas celles des bunkers, des abris qui ont défrayé la chronique ici à Genève, des personnes sous prétexte de voilà que l'entrée d'un chantier devait absolument passer par là. Alors si j'ai bien compris, via le collectif Perse Frontières qui a beaucoup manifesté et s'est beaucoup battu, cette évacuation a été repoussée, a été annulée, et donc les personnes qui sont au foyer Franck Thomas peuvent normalement y rester jusqu'au moins 2019. Ouais. Cela sous réserve quand même d'y faire, d'y pratiquer quelques rénovations, puisque les conditions d'habitation sont toujours, j'imagine, mais tu vas nous confirmer ou pas, des conditions, disons, proches de l'insalubrité, si j'ai bien compris. Alors, Mugisho, toi, tu as rejoint les personnes à Franck Thomas depuis quand ?
Depuis début mars.
Début mars de
2017.
2017, très bien. Alors, toi, quand tu es arrivé, quelle situation as-tu trouvé sur place ?
Alors, comme tu viens de le dire, les politiques, ils ont quand même réaménagé les foyers. Tous les foyers, ils ont remis à neuf. Et c'était plus insalubre, donc c'était tout neuf.
D'accord. De ce côté-là, on peut dire que le travail était fait, comme c'était d'ailleurs normal que ce soit fait.
Oui.
OK. Alors, explique-nous déjà pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que les choses sont organisées au sein du foyer ? Est-ce que chacun a sa chambre ? Est-ce qu'il y a une cuisine commune ? Tout ça, toutes ces choses-là.
D'accord. Alors, au foyer, pour les nombres, il a une capacité de 130 personnes. Il faut compter 14 places pour les femmes, on dit femmes seules ou célibataires, mais donc des femmes qui sont seules. Elles peuvent être mariées ou pas, mais qui n'ont pas d'enfants. Au foyer, Franck Thomas, il n'y a pas d'enfants, donc tous sont des majeurs. Il est organisé, je peux dire, en deux grandes parties. Il y a la partie externe, si je peux dire interne. Il y a la partie externe, on appelle des appartements. Donc il y a certains hommes et femmes, donc toutes les femmes, elles sont dans des appartements. Auparavant, avant la remise en neuf, il y avait des familles dans ces appartements. Donc c'est soit un appartement de trois chambres avec cuisine, toilette, douche, ou soit deux chambres. Du coup, quand on arrive à Franck Thomas, du côté droit, il y a les hommes. Donc au rez-de-chaussée, au premier étage, c'est que des hommes qui sont dans les appartements. Et du côté gauche, il y a maintenant les femmes. En bas et en haut, ce sont des chambres. Alors, que ce soit dans les appartements ou dans la partie interne, si je peux dire, chacun est seul dans sa chambre. Donc, à notre arrivée, ils ont disposé, chacun il a un lit avec toute la literie, une armoire pour au placard, une table, une chaise, un petit frigo. Voilà. Donc, Alors, ceux qui sont dans les appartements, ils sont trois, donc avec leur cuisine, une cuisinière. Chacun toujours a son petit frigo. D'accord. Donc, ils ont trois frigos, ils sont trois. Et des toilettes. Mais du côté de ceux qui sont à l'interne, on a des cuisines communes. D'ailleurs, il y a une cuisine commune, des douches communes et des WC communs.
D'accord.
Mais alors, c'est un peu différent parce qu'à l'intérieur, il y a des ailes où il y a 12 chambres, donc 12 personnes. Et il y a là où il y a 24. Et c'est un peu ça. Et puis, que ce soit 12, 24, ou il y a une aile du côté gauche à l'entrée, donc tout en haut, le premier niveau, pas le premier niveau, mais le seul niveau qui est là, ils ont la seule cuisine commune qu'ils partagent.
Voilà. Ok. Et ça se passe relativement bien selon toi ?
C'est relativement bien parce que depuis fin février qu'on est là, je n'ai jamais entendu des conflits où quelqu'un vient faire à manger. D'ailleurs, la plupart du temps, les cuisines sont libres. Les jeunes, ils viennent, ils préparent, ils s'en vont. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, il y a une autre chose, on a la bianderie.
Oui.
On a 6 machines à laver et 6 machines à sécher les linges. Donc, il y a les étendards du foyer. Ils ont mis quand même un certain programme que les gens y suivent normalement. Mais ça aussi, c'est quelque chose à dire parce que c'est un peu spécial à Franc-Thomas. Et comme je dis souvent, c'est très bien parce que les gens ils parviennent à s'entendre. Il y a ce qu'on appelle les agents des protecteurs qui ont dit, bon, quand même, s'il y a un conflit et tout ça. Mais par exemple, si quelqu'un y vient, sur l'horaire, c'est son air de laver, mais si la machine est occupée, ils ne se prennent pas la tête, ils vont ailleurs, regarder s'il y a des libres, on fait. Donc, je n'ai jamais vu de conflit à ce niveau-là.
On peut dire que les gens qui sont là, il n'y a pas de tension particulière et que les choses se font au travers de la collaboration et de la communication. Voilà. Très bien. Dis-moi, est-ce que pour être sûr des choses, question ? Oui, bien sûr. Installe-toi. Alors, je termine juste vite et puis après, tu vas. Concernant l'accès aux appartements, donc chacun a sa clé, vient et part, déambule en toute liberté. Je te demande ça parce que, effectivement, dans les bunkers, les conditions étaient terribles, avec effectivement des caméras, même dans les couloirs pour y mener. Enfin, il y avait vraiment des conditions inhumaines. Et est-ce que là, on peut dire que chacun recouvre quand même une partie d'autonomie et de vie, vraiment, réellement de vie privée ?
Oui, chacun il a sa clé. D'ailleurs, à l'entrée, on signe, c'est comme dans les locations dans la ville, donc on signe sur le contrat, il y a le nombre de matériel qu'on te donne, que tu es censé normalement remettre le jour de ton départ. Tu as ta clé, on te signifie combien elle coûte si tu la perds. C'est vrai qu'à part les étendants qui ont le pass, parce que si jamais il y a quelqu'un n'est pas là ou qu'il y a un souci, je vais raconter par exemple, il y a des moments, parce qu'on est arrivé, tout n'était pas encore très très fini, donc le finissage, il y avait les détecteurs de fumée qu'il fallait poser, il y avait des stores qu'il fallait poser par la suite. Donc, ça, alors, avec ça, les étendards, ils peuvent ouvrir. Ou alors les agents de sécurité, les protecteurs, s'il y a un souci, là, ils peuvent ouvrir s'il y a un problème. Donc, mais moi, je ne peux pas ouvrir la chambre d'un copain parce que ma clé ne peut pas ouvrir sa chambre. Donc, à ce niveau-là, c'est, on sait, on laisse. Ben, s'il y a la disparition, c'est soit l'étendard qui a la clé ou alors les agents de protecteurs, ce qui n'est pas encore arrivé.
Voilà, on peut dire que c'est sécurisé, que vous êtes en confiance.
Oui, en confiance.
Très bien. Camille, tu avais une question ?
Oui, tu disais tout à l'heure au foyer Franc-Thomas, c'était peut-être particulier à ce foyer, non, c'est d'ailleurs ma question, qu'il y avait assez peu de conflits, que les gens s'arrangeaient entre eux, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment particulier à ce foyer-là? Et si oui, pour quelle raison?
Alors moi, je pense que c'est particulier à ce foyer-là parce que si on calcule mars, avril, mai, juin, juillet, août, qu'on veut terminer bientôt, on n'a jamais vu que ce soit les agents, disons la police, pour dire, on les a appelés pour venir séparer les gens ou que les protecteurs ils agissent pour venir séparer les gens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, au début, quand on est arrivé, ils étaient là, disons la journée. Et franchement, moi, je disais qu'ils tournaient les pouces parce qu'il s'est retrouvé, il n'y a rien à faire parce qu'on est, disons, cool avec eux, on se respecte mutuellement, disons quelques-uns, on se respecte mutuellement, il n'y a pas de conflit, on respecte les règles qui nous sont posées par les étendards ou les assistants intercommunautaires. Donc, il n'y avait pas de, conflit. Et moi, je pense que c'est un peu particulier parce que Franck Thomas a été peuplé par un groupe de, jeunes hommes qui sont venus du foyer Appia, parce que le foyer Appia qui est situé en face de l'OMS sera aussi démoli parce qu'il y a une route, paraît-il, qui vont construire par là. Et du coup, ils ont dit, bon, comment on va démolir? C'était d'abord en juin, après septembre, après maintenant, là, j'ai entendu que c'est décembre. Alors, on nous a pris je pense, autour de 140 personnes, les hommes qu'on est allés... non, pas 140 personnes, 120 ou 110, parce qu'on est 130 le maximum. Oui. Et puis, tous, on est venus presque du même foyer. On ne se connaissait pas trop, mais on se voyait dans le foyer. Et là, il y avait vraiment... moi, je l'ai dit, chacun, il a ses points positifs et négatifs. Mais j'ai dit vraiment bravo aux assistants de Appia, que ce soit les intendants ou les assistants, parce qu'ils ont mis une espèce de confiance. Moi, je suis venu en octobre là-bas, mais j'ai trouvé quelque chose de l'humanité qui était là. Ça a commencé par là. Et puis quand on nous a déplacés vers Franck Thomas, on sait encore, les liens se sont encore plus ou moins bien serrés. Et que les filles ou les femmes qui sont là, elles viennent presque toutes d'un autre foyer, le foyer de Malagnon. Donc elles aussi, elles se connaissaient, je pense, d'une façon ou d'une autre. Et que le 14, elles sont venues. Donc, bon, alors, il y a ceux qui étaient à Franck Thomas, des garçons qui se connaissaient, par exemple, les Érythréens qui se connaissaient avec les filles érythréennes qui sont là, ou les Kurdes avec les filles kurdes, ainsi de suite. Donc, on s'est trouvé dans une famille. Donc, bon,
c'est extrêmement intéressant de le dire parce qu'effectivement, là aussi, dans les bunkers, les gens sont continuellement séparés, déplacés, et effectivement, les affinités ne peuvent pas apparaître. Et là, on voit que dès lors que des groupes peuvent être formés et les affinités se développer, eh bien, on s'aperçoit que ça apaise beaucoup les rapports sociaux entre eux. Camille, alors, pour continuer là-dedans, j'avais encore une ou deux petites questions un peu triviales, mais avez-vous le droit de recevoir des amis ou des invités chez vous à Franck Thomas? Ça, c'est important.
Hein, oui, c'est très important. Oui, on a les droits. En fait, il y a quelques règles qui sont en train d'être, je pense, qu'on va discuter là, avec ce qu'ils appellent les étendards, les assistants intercommunautaires. On a une réunion mardi à 14h30 parce qu'il y a certaines règles que moi, je trouve, c'est plutôt pas... c'est pas justifié.
D'accord.
Mais on a quand même le droit de 6h à 22h d'avoir de la visite.
Ah, mais dans ces horaires-là exclusivement.
Oui, dans la journée, donc jusqu'à 22h le soir.
Je comprends.
Il y a une autre loi qu'on a dit, bon, si jamais, parce qu'on a dit, bon, écoutez, nous, on vient d'Appia, on était 4 dans la chambre. Vous nous avez dit que ouais, parce que vous êtes 4, il n'y avait même pas droit d'avoir même un pote de venir dans sa chambre. Tu ne pourrais même pas lui montrer là où tu habites. Alors ils disent, oui, vos amis ils peuvent venir. Dis, ok. Alors on a dit, écoutez, on est des garçons. Vous nous demandez qu'il faut qu'on s'intègre. Oui, mais dans l'intégration, on raconte et les femmes et les hommes. Et il peut y avoir une chance qu'on croise une femme, on tombe amoureux. Et on aimerait bien qu'elle vienne chez nous.
Et qu'elle reste la nuit.
Parce qu'après, on n'a pas l'argent pour payer à l'hôtel. Non, si on veut rester avec elle.
Ouais,
on n'a pas tout le temps l'argent pour lui payer un café, dans un resto. Mais on aimerait bien qu'elle arrive à la maison, qu'on lui donne une tasse d'eau et qu'on discute. Bon, là, ils ont dit, oui, vos amis peuvent venir. Là, je sais. Bon, jusqu'aux dernières nouvelles... S'il y a quelqu'un, par exemple, qui n'habite pas le canton de Genève, ils ont dit oui, vous pouvez annoncer à l'avance jusqu'à 2 jours maximum. La personne peut rester, mais il faudrait que la personne, qu'on sache qu'il y a une étrangère chez elle ou un étranger chez elle Et comme ça, pour des règles de sécurité et de je sais pas quoi là. Donc il faut qu'ils sachent. Bon, on a dit OK.
Mais c'est-à-dire qu'ils sachent. Qu'ils sachent.
S'il y a un incendie. Alors,
oui, mais même
ce qui est top ici en Suisse, moi je ne suis pas suisse, mais les gens ils pensent toujours dans, le, dans les limites. C'est des limites, des choses, des catastrophes.
Oui.
Peut-être comme je viens de mon pays, nous on ne pense pas comme ça.
Ils ne pensent pas forcément seulement aux limites, c'est aussi que des incendies dans les foyers, c'est aussi déjà arrivé. Ouais. Donc ce n'est pas forcément penser au pire qui pourrait arriver, c'est penser à des choses qui
après,
sont déjà produites.
Après, on a de larges suspicions aussi sur comment ces incendies sont arrivés.
Oui,
si
oui.
On parle d'État, ce n'est pas le fait des gens qui habitent.
Oui, oui, non, mais justement enfin, on ne pense pas seulement. Mais, oui.
Tout à fait.
Mais chose qu'on respecte. Mais, hein.
Ouais.
On respecte les règles, en fait.
Mais dis-moi, juste pour préciser, parce qu'effectivement, c'est clairement intrusif que de demander à une personne d'annoncer les invités, leur identité ou je ne sais pas quoi, en avant, je trouve ça quand même carrément très, très intrusif. Mais juste pour préciser, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, tu as parlé d'intendant et d'assistant communautaire.
Ouais.
Alors, quels sont les rôles de chacune de ces personnes-là? Et ensuite, nous parlerons de, y a-t-il les intendants, les assistants communautaires et les habitants, les résidents qui ensemble décident ou comment est-ce que les processus de décision vont s'opérer? Mais allons dans l'ordre. Qui sont ces intendants et ces assistants?
Alors, là, je veux dire des choses. Peut-être les étendants, les ASIC, là, ils pourront corriger, je pense.
On les y
invite. J'ai pas vu là où c'est écrit leurs différentes tâches. Mais j'ai dû comprendre, selon les discussions, les échanges qu'on mène avec eux, ou que je vois les petites demandes des gens et à qui ils orientent une autre demande. Alors, il y a les étendants. Ils sont en charge de tout ce qui est technique, la partie technique. Que ce soit problème dans le WC, des portes qui se bloquent, ça peut arriver. Par exemple, moi-même, un jour, la porte s'est bloquée. Je revenais de la douche et puis je vais ouvrir ma porte. Elle refuse. Mais c'était de vieilles séries, je pense. Donc, et que ce soit problème de manque de Wi-Fi ou une lampe qui est... Ben, des choses comme ça. Ils gèrent, les étendards souvent ils gèrent cette partie de propriétés dans le foyer, ceux qui sont chargés de nettoyage, ainsi de suite. Mais il y a la partie sociale, administrative aussi, qui est gérée maintenant par ce qu'on appelle ASIC, assistant intercommunautaire. Je pense, dans son cahier des charges, c'est essayer de mettre vraiment les vivre ensemble, la paix sociale, la compréhension, et de temps en temps, le deux, je vois. Parce que comme il y a des gens qui ne parlent pas bien français ou qui parlent à peine ou qui, même s'ils lisent, ils ne peuvent pas tout comprendre des différents courriers. Donc, ils sont là dans les expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Mais souvent, ils sont un peu surchargés par leurs tâches à faire au quotidien. Ben, ils recourent à nous, pour ne pas dire moi ou d'autres amis. Il y a ceux qui parlent arabe, qui peuvent bien traduire. Ils parlent arabe et français, ils traduisent aux copains. Il y a ceux qui parlent, moi, je peux dire à une autre, voilà ce qui se passe. Parce que je n'ai pas d'autres langues, il y avait d'autres gens qui parlent une de mes langues, je peux dire, voilà, ça, c'est ça, et ça, et ça. Mm-hmm. On essaie un peu de se donner un coup de pouce. Et que si c'est un courrier, il faut qu'il voit son assistant social. Je dis, écoutez, ça, c'est urgent. Il faut vraiment avoir ton assistant social aujourd'hui. Aller au boucher ou, je ne sais pas, aux palettes. Il faut forcer pour... parce qu'il y a des courriers qui viennent de l'office de fiscal. L'histoire-là, que ce soit des poursuites, il y a un qui était d'abord des poursuites, des factures non payées, des ambulanciers, des choses comme ça, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on me taxe 100 francs, 200 francs. Je dis, mais écoutez, c'est en urgence. Il faut vraiment... Parce que chacun, il a aussi sa boîte à lettres. Donc, ouais, avec clé... Alors, quand tu reçois ta lettre, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il s'agit. On essaie un peu de se donner un coup de pouce dans ce cas-là.
D'accord. Donc, j'allais te poser cette question concernant le courrier. Ouais. Donc, le courrier, vous avez des boîtes aux lettres nominatives avec une clé à vous.
Ce n'est pas nominatif, mais c'est des chambres. C'est alors, parce D'accord. qu'on okay. se dit, peut-être quelqu'un va quitter la chambre. On dit, bon, ça, c'est pour telle chambre. Ouais. Okay. Dans ce sens-là.
D'accord. Combien sont-ils, la proportion des gens qui sont assistants communautaires et intendants? Juste pour me rendre compte de...
Alors, à Frontement, on a un assistant intercommunautaire qui est à 80% parce qu'il gère aussi un autre foyer de Malagnon
en plus.
À 20%. L'étendant, je ne sais pas, il est de combien de pourcents, mais
il est seul
aussi. Il y a Je peux dire qu'ils sont deux.
D'accord.
Il y a un civiliste.
Un civiliste qui fait un peu le travail.
Je sais pas, il aide.
Il aide un peu tout le monde.
Normalement, il peut. Je pense qu'il fait le touche à tout. Il aide, que ce soit un tanda ou. Alors, ils ont. Il y a la chef, donc il y a. Il y a une personne qui coordonne différents foyers, donc qui est au-dessus de l'étendant, de l'assistant intercommunautaire.
C'est trop peu, ça, non? Là, il y a une réelle carence, parce que ça veut dire que la personne, quand elle est en vacances, il n'y a plus personne. Je veux dire, à quels horaires, comment est-ce que vous les trouvez, ces personnes? Est-ce qu'elles ont leur bureau là? Est-ce qu'on les appelle et elles répondent? Est-ce que, tu vois, parce que si c'est un problème de plomberie, ben, des fois, c'est urgent. Admettons que la personne soit en vacances, ou en congé, ou en arrêt maladie ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça traîne.
Alors, ce qu'ils font, on sait, il y a des horaires affichés. D'accord. Dans leur bureau, ils ont leur bureau. On connaît les dépôts, on connaît tous les endroits. Ben, alors, s'ils ne sont pas là, s'ils sont dans un autre foyer, ils nous disent. Donc, on sait à telle heure, ils ne sont pas là. On a leur numéro de téléphone, si jamais. Bon, donc, on ne les appelle pas souvent parce qu'on sait, en dehors des aides de service, c'est pas bien de déranger les gens. Mais alors, comme il y a les agents de Protectas, quand ils ne sont pas là, une urgence, et aussi peuvent appeler, que ce soit urgence maladie ou plomberie ou autre chose.
D'accord. Alors, ils peuvent. Donc, on dit que l'un dans l'autre, vous pensez que c'est relativement suffisant en l'état, ou est-ce que tu penses quand même que voilà, un pourcentage un peu plus ou une personne en plus serait pour le moins bienvenue?
Alors, je vais répondre que l'abondance de bien n'est nue jamais.
Alors, arrivons-en au processus de décision. Quand vous devez prendre une décision comme ce qui concerne voilà, qui peut venir et dans quelle tranche horaire, puisqu'on en vient d'en parler, comment est-ce que ça se passe? Vous appelez, vous dites, je prends l'exemple, l'assistant intercommunautaire, et lui dites, voilà, on a besoin d'une réunion parce qu'on a envie, nous avons des demandes à vous formuler, et puis on va décider ensemble après avoir réfléchi, ou comment ça se passe?
Alors, c'est là où c'est un peu, je pense... Moi, je me dis peut-être comme on venait d'arriver et que l'assistant intercommunautaire, il était là. Avant qu'on démolisse, il était toujours là. Il y a le tanda qui était dans un étendard, dans un bunker. Donc, il est nouveau. Et leur chef ou leur chef-taine, donc je pense, je ne sais pas si elle est nouvelle là ou elle était dans ses fonctions. Alors, il y avait des règles là, les règles qui se décident, toutes les règles qui sont là. Nous, on n'a pas participé à ces règles. Donc, c'est ce qui est un peu déplorable. Bon, on les a quand même dit qu'il serait mieux qu'on sache, qu'on dise, bon, c'est pour notre bien, c'est nous qui vivons ici. On aimerait bien aussi être protégé. Mais qu'on sache, voilà, on a pris telle règle et que ça se passe comme ça. Je pense que c'est pour ça, le mardi prochain, on a une réunion pour qu'on puisse un peu dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut vraiment... tabler là-dessus. Je pense qu'on va bien discuter avec eux. Parce que moi, je trouvais, par exemple, ils interdisent une chose, mais ils ne vont pas dire aux résidents, mais c'est les agents de Protectas, quand tu veux faire quelque chose, tu dis, c'est interdit. Bah, c'est quoi, c'est interdit? Oui, on a une transmission, c'est interdit. Bon, ok, d'accord, c'est interdit, on laisse. Donc, on ne va pas se mettre à... Moi, je dis toujours aux copains avec qui on reste, on n'est pas là pour se disputer avec les gens.
Bien sûr.
On sait ce qui nous a amené ici.
Oui, non, mais disons qu'effectivement, là, la demande de collaboration, du coup, elle est.
Maintenant, là, elle est entendue. Là, voilà. Actuellement, je peux dire, comparativement au mois de février, on est beaucoup plus entendu, beaucoup plus soutenu ou accompagné dans la mesure du possible. De leurs limites aussi, que ce soit financier ou. Pas moral, ou
ouais,
c'est
humain,
pas humain, voilà.
Exactement. Alors, nous allons dans quelques instants faire une petite pause musicale et puis ensuite on reviendra sur l'actualité, vraiment ce qui s'y passe actuellement, parce que vous avez plein de projets.
Ouais.
C'est génial de voir le jardin, les projections, la pétanque, le football, enfin, vraiment. Mais avant cela, encore une ou deux petites questions, un petit peu sur sur ce qui s'y passe. Quelle est une journée? Je sais qu'on peut pas dire ça et que c'est une question un petit peu bizarre, mais la journée type d'un résident de Franck Thomas. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière ma question, il y a l'interrogation sur le fait de dire, est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas beaucoup de choses à faire et on est un petit peu là, laissé un petit peu à l'abandon, on s'ennuie et on sait comme ça peut être terrible les journées où il n'y a rien. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est où il n'y a rien à faire. Est-ce que ça existe également à Franck Thomas? Ou est-ce que vous, alors j'ai bien compris que vous organisez pour avoir des activités, mais où est-ce que les personnes trouvent des choses à faire? Je veux dire, est-ce qu'il y a des moyens de se former? Est-ce qu'il y a moyen de, voilà, de, d'avoir accès à des livres? J'ai compris qu'il y avait le Wi-Fi, donc peut-être il y avait une salle où certains ordinateurs, pour ceux qui ne peuvent pas en avoir, peuvent les utiliser. Enfin, voilà, comment se passe une journée au sein de Franck Thomas, ou du foyer?
Alors c'est ça le grand problème. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup lutter contre ça, parce que la nuit conduit à la déprime, à la dépression. Et pour participer peut-être au bien-être, ou je sais pas, au vivre ensemble, et éviter aussi les dépenses publiques, parce que si quelqu'un tombe dans la dépression, c'est pas facile de lui en sortir. Alors, dans la, en général, pour ceux-là qui n'ont pas d'activité, donc, parce qu'il y a ceux qui partent à l'école au Charmy, le cours de français. Il y a quelques résidents, les résidentes, pardon, qui ont commencé les cours d'Horizon Académique à l'Université de Genève. Donc là, ils ont quand même une activité. Il y a d'autres qui travaillent. Mais il y a ceux-là qui ne travaillent pas, je les vois, ils sont là du matin au soir. Ils s'assoient. Bon, c'est vrai, on a une table de baby-foot.
D'accord.
Bah, ils peuvent monter, se distraire un peu. Et, la salle des ordinateurs, on a une petite salle des ordinateurs où c'est le soir qu'on ouvre, parce que les responsables, les résidents qui sont là, la journée, ils ont d'autres choses à faire. On s'est dit de 18h à 22h, c'est plus facile que tout le monde puisse aller là-bas, pour ceux qui n'ont pas des, des ordinateurs. Mais c'est un peu dur. On le voit... Bon, c'est inactif. Soit ils écoutent la musique dans leur chambre, soit ils discutent avec les copains, soit ils font un petit tour, soit ils restent là sans rien faire. Il y a d'autres qui ont trouvé quand même un moyen. Ce qui aide aussi beaucoup, c'est nos activités de jardin ou autre chose.
Alors ça, on va en parler.
Si, si tu n'as rien à faire, bah, tu peux arroser, tu peux enlever l'herbe morte, tu peux, je ne sais pas.
Mais donc on a vu que tu observes, vous observez que ça peut, c'est un problème.
C'est très, c'est un grand problème.
Dernière question, on fait une petite pause et on en revient justement à toutes les activités que vous organisez. Ouais. Et on invitera toute la population de Genève à venir vous, vous rencontrer. Vous voir,
avec plaisir.
Non, mais c'est là où c'est important. On a, on a observé qu'avec les... D'ailleurs, c'était très beau les mots de Stop Bunkers à l'époque. On a besoin d'air et non pas de vent. Enfin, tout est là. Et on a besoin que les gens se rencontrent tout simplement pour comprendre. Et dès qu'on comprend, on se solidarise, évidemment.
Tout à fait.
Alors, dernière question, l'accès aux soins, l'accès à la formation. Tu as parlé de l'université, donc des gens peuvent travailler, certaines personnes peuvent travailler ou se former à l'université, oui ou non. Et puis, l'accès aux soins est-il facile, aisé ou est-ce
Alors, je commence par l'accès aux soins. Dans la politique suisse, tous les demandeurs d'asile, ils ont tous l'assurance maladie, l'assurance civile, tout ça. À Franck Thomas, tout le monde peut aller à l'hôpital. Bon, on n'a pas une, une unité de soins locales. Bon, j'ai jamais... Il y a une fois, quelqu'un, il avait une urgence. Bon, il y avait les agents de protection, c'était la nuit, ils ont appelé les, l'ambulancier. D'accord. Ils sont venus, ils l'ont transporté à l'hôpital. Donc là, sur ce point-là, si c'est la journée, je le vois, les gens, ils vont dans leur, répondre à leurs rendez-vous médicaux. Au niveau de l'école, oui. Avec Horizon Académie, comme je suis quand même pas mal en contact avec, avec eux. Peut-être on va aussi en parler parce qu'il y a une activité qu'on fait avec l'Université de Genève. J'ai trouvé que parmi les résidents de Franck Thomas, il y a celle-là qui était à l'université chez eux. Il y a celle-là qui avait terminé. Il y a des ingénieurs à Franck Thomas. Il y a des tailleurs, il y a des maçons, il y a des couturiers, des gens, des cuisiniers. Un peu tout. Il y a ceux qui étaient à la faculté de médecine, il y a des médecins. Il y a... Alors on s'est dit, bon, l'unique façon de bien s'intégrer, pour ceux-là qui veulent aller à l'école, que ce soit les apprentissages, il y a ceux qui font ça, ou à l'université, on les a orientés vers l'horizon académique, qui est vraiment une grande porte pour tous les réfugiés ou pour tous les demandeurs d'asile, NFB comme ils appellent, d'avoir accès au cursus universitaire. Donc là, c'est, ça se fait sous forme de... ils ouvrent les inscriptions, il y a un examen à l'entrée. Et comme ça, ceux qui sont retenus, ils peuvent commencer les cours de français en accéléré. et après choisir comme des auditeurs libres dans certaines matières de leur choix.
D'accord. Ouais. Bon, on est content de l'apprendre en tout cas. Ouais. Je propose qu'on fasse une... À moins qu'il y ait des questions parmi nous. Camille.
Je suis désolée.
Désolée, pourquoi ?
Je veux bien savoir un petit peu plus sur Horizon Académique. Est-ce que c'est une association, c'est... Peut-être que tu parles du projet que vous avez peut-être après, en fait.
Ouais. Je peux répondre ou pas ?
Oui, bien sûr. Je pensais dédier une émission à ça, en fait.
Pourquoi pas aussi.
Mais parce qu'il faut que ce soit... Là, il faut, c'est un gros sujet. Mais non, réponds seulement, bien sûr.
Alors, j'en parle parce que depuis Apia, Horizon Académique, ce que j'ai compris, bon, ils vont venir peut-être bien expliquer leur projet, mais l'Université de Genève veut... intégrer les gens ou ouvrir une porte aux réfugiés qui ont été à l'université chez eux ou qui aimeraient bien continuer l'université. Parce que nombreux, quand nous venons, on vient sans papier parce qu'on perd tous les diplômes. Pour ceux qui, parce que souvent, c'est dans la hâte qu'on part, soit on le perd, soit on les a brûlés. Maintenant, ils essayent un peu d'ouvrir la porte à tous ceux-là qui veulent continuer les études pour qu'ils soient quand même bénéfiques. Dans la vie sociale, la vie économique. Donc, alors, moi, je l'appelle, c'est un passerelle pour être comme auditeur libre. Et par la suite, il y a les examens qu'ils font, il y a les tests de français, les examens EQ, selon les critères de s'ils sont dans la zone où leur diplôme est reconnu ou pas. Donc, ils font les cours de français pour avoir un niveau au moins B1. Et après, ils suivent en même temps les cours de français pendant 6 mois, c'est semestriel. Les cours de français et leurs cours au choix qu'ils choisissent dans leur filière. Et du coup, après, c'est que les examens, s'ils réussissent, la personne a réussi à ses examens, il peut constituer un dossier et aller à l'année prochaine ou à la rentrée prochaine, se faire inscrire maintenant dans la faculté qu'il souhaite faire à l'Université de Genève. Je ne sais pas si c'est clair. Non.
Si, c'est très clair. C'est juste que moi, je suis rentrée à l'université librement sans avoir à passer de test ni quoi que ce soit. Du coup, je ne comprends pas bien pourquoi c'est si compliqué. Moi, je pensais que c'était une association qui offrait à la limite des aides financières pour le support, pour l'achat du matériel, pour les frais, simplement les 600 francs qu'on a à payer à l'université. Je ne pensais pas que c'était des espèces de passerelles qui étaient organisées comme ça, alors que l'université, en principe, est libre d'accès.
Alors, libre d'accès, oui. Mais ça, c'est la réalité du terrain. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se disent et des choses qu'on arrive. Parce qu'après, ceux qui ont été à l'université chez eux, je vois qu'il y a des jeunes qui ont fait la métallurgie. Il y a ceux qui ont le master en métallurgie en Iran. Il y a ceux qui étaient des informaticiens chez eux ou des mathématiciens ou des physiciens chez eux. Ou des profs de lycée ou de collège. Mais quand ils arrivent, comme ils n'ont pas un diplôme qui, par malheur, n'est pas en français, donc il faut le traduire, et que l'Université de Genève ne reconnaît pas certaines universités, je pense, d'histoire politique, tout ça, et du coup, on fait un peu c'est toute cette démarche un peu longue et pernicieuse. Et
c'est ça.
Moi, je vais donner un exemple. Je suis médecin, je suis pédopsychiatre, et moi, je dis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est un peu difficile. Et ils me disent, il faut que je retourne à l'école. Je dis, mais vous blaguez là. Je fais plus de 15 ans à l'université. Et vous voulez que je retourne où? Ils me disent, Master 1. Je dis, mais ça, c'est Master 1 que j'ai fini il y a longtemps, il y a 10 ans. Mm. Donc, j'ai fini Master 1, je fais la spécialisation. Et vous me dites que je dois être avec les petits là de 20 ans. Donc, c'est vraiment assez difficile, mais quand on veut faire quelque chose, il faut vraiment s'y mettre. Parce qu'on dit, bon, c'est les prix à payer.
Ouais, c'est imparfait, mais c'est pas très...
Mais il faut le faire pour atteindre quelque chose. Parce que quand on est dans une... Je pensais, quand on est dans une situation où on ne peut plus rentrer chez soi, on est obligé de s'adapter dans le nouveau environnement. C'est que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais...
Il faut dire qu'Horizon Académique, c'est également une percée et que l'on peut estimer qu'elle ne s'arrêtera pas là, mais qu'effectivement, c'est déjà...
Moi, je ne savais pas que c'était une association. Moi, je pensais que c'est un programme de l'université qui...
On en reparlera plus précisément avec eux, mais effectivement, parce que c'est un petit peu à cheval. Il a fallu user de beaucoup de canaux différents, pour ce que j'en sais à l'état actuel des choses, dans l'état actuel des choses, pour arriver à ce type de résultat. Ouais. Donc c'est à cheval sur plusieurs choses. Mais on en reparlera effectivement avec des personnes concernées que l'on... Voilà. Je propose... Ah, une question ? Alors, une question, et puis ensuite, on fait la petite pause musicale. Ouais, allez, Philou.
Ouais, moi, je me posais la question si... parce que j'entends là qu'il y a énormément de compétences
ouais.
dans tous les domaines. Et on nous dit que, ben oui, les centres de réfugiés, ça coûte cher parce que justement, il y a toutes ces intendances.
Ouais.
Il y a ces caisses maladies qu'il faut payer, etc. Mais quand on a tout sur place, des ingénieurs, des médecins, des gens qui sont dans la métallurgie, des plombiers, des maçons, quand on a toute cette disponibilité-là, pourquoi pas utiliser les compétences qui sont sur place ? Et en plus, de manière peut-être aussi culturelle,
ouais.
peut-être une facilité, parce que je sais, moi, je suis aussi allé à l'hôpital, et je sais, des fois, je vois des choses au niveau rapport entre le médecin, entre le patient qui est réfugié et le médecin suisse, eh ben, ça met un petit bout de temps à se comprendre, etc. Je sais qu'il y a des fois des difficultés culturelles, etc. Et je me dis... il pourrait être organisé une vie en autarcie, pas qu'on veut, je dis pas dans le sens fermé, mais une communauté qui pourrait être que bénéfique pour tout le monde et pour les uns. Et c'est une communauté qui où on pourrait voir que donnerait plutôt un exemple que l'entraide rapporte peut-être beaucoup plus. Que les financements, quoi.
Tout à fait. C'est pourquoi, avec les assistants sociaux du foyer, qui se trouvent. Bon, pour les gens qui ne savent pas, le foyer se trouve dans les quartiers Eau-Vive.
Oui,
oui. On pense faire la soirée portes ouvertes. Donc, ça serait important. Nous, on mise vraiment que toutes les entreprises, toutes les personnes qui travaillent dans le quartier Eau-Vive, Chêne-Bourgerie, je ne sais pas là, tous ces gens-là, ils sont les bienvenus pour nous rencontrer et peut-être ouvrir des portes pour ces personnes qui ne font que attendre ou ils auront l'occasion de travailler, de montrer ce qu'ils sont capables. Parce qu'on s'est dit affrontement, on ne veut pas donner l'impression qu'on est des fainéants, des inutiles, une charge sociale. Non, moi, on était en contact avec les gens du quartier, la maison du quartier, et moi, avec des amis, on les a dit, nous, on ne veut pas que vous pensiez que vraiment on est une charge. C'est nous-mêmes, donc là, c'est s'insulter soi-même, qu'on soit une charge pour les autres. Mais on aimerait bien trouver le travail, participer à la vie sociale et apporter quelque chose, le paix qu'on peut, à l'édifice de la Suisse. Quoi.
Vous êtes dans une structure, on va dire, légale.
Ouais.
Une structure, on va dire, qui est en surface.
Ouais.
Mais à Genève, il faut savoir, il y a toute une structure qui s'est illégale ou en sous, qui est comme sous terre. Quoi. Il y a des gens qui vivent à Genève, qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas réfugiés, qui ne sont pas reconnus par aucune institution. Et ces gens-là, eh ben, ils ont aussi besoin de médecins, ils ont besoin d'assistance, etc. Donc on sépare les deux. Parce qu'à Genève, il y a l'hôpital qui a ouvert une section pour ces gens-là qui n'ont aucune assurance maladie, rien du tout, où les soins sont gratuits, il y a des SDF qui font, etc. Et je me dis, c'est un truc qui m'énerve un petit peu, cette séparation des problèmes, c'est-à-dire quelqu'un qui est SDF, pourquoi il ne pourrait pas cohabiter avec des réfugiés et avoir une entraide entre la population suisse, qui est mal logée, qui est mal lotie, comme on dit, et les réfugiés qui sont aussi dans une situation précaire, au lieu de séparer les situations précaires, les mettre ensemble et de créer des solidarités.
Bon, peut-être c'est aux politiques de répondre.
Ouais, absolument. Je propose qu'on fasse la petite pause musicale maintenant, puis après on viendra effectivement aux activités de Franck Thomas, organisée par les résidents de Franck Thomas, puisque effectivement il y a cette journée porte ouverte où toutes ces idées-là, à mon avis, nourriraient, quoi qu'il en soit, la discussion, le débat avec les personnes sur place, et que, comme tu l'as dit, Philou, il y a certainement des convergences à réaliser, certainement des solidarités et de l'entraide à mettre en avant, ça c'est sûr. Après, voilà, sous quelle forme, eh bien, c'est tout à découvrir encore.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, on sait que d'ores et déjà, on peut l'annoncer, demain dimanche à 15h, au stade de Grandonzel, match de foot avec l'équipe de Chênebourg. Alors ça, l'organisation, c'est vous qui l'organisez, ce match de foot.
Ouais.
On va en parler tout à l'heure. Juste avant, on se fait une petite pause musicale pour reprendre notre souffle et aller boire un verre d'eau. On écoute Cypress Hill Ghost Rider. C'est parti. Merci d'ores et déjà à Mugisho pour toutes les informations que tu nous donnes. On est ravis vraiment que tu sois parmi nous aujourd'hui.
Merci.
On y va.
Fire one, fire two, fire three, they'll never forget about me.